Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. C'est une grande joie pour moi de vous saluer aussi de la part de l'église donc baptiste d'Épinal. Et je reconnais Daniel qui était avec nous, il était même mon voisin il y a quelques années. Voilà. Alors, juste quelques mots de présentation. Donc, l'église d'Épinal, c'est en fait une jeune église en implantation, et on est en train de vivre un tournant important dans la vie de l'église. Et je veux vous remercier aussi au nom de l'église d'Épinal pour le soutien que vous apportez avec à Mulhouse depuis maintenant des années. Donc on a plusieurs particularités à Épinal. Donc je suis pasteur de l'association baptiste et en même temps je suis évangéliste à France Évangélisation. Et j'ai ouvert, si tu peux, voilà. Non, mais c'est bon. J'ai ouvert au centre-ville d'Épinal une permanence pastorale qui s'appelle le Café Change. Donc vous avez ici les images, donc qui est vraiment au cœur de la ville. Et l'idée de ce lieu, c'est à la fois donc un lieu où les personnes qui passent peuvent venir pour poser toutes les questions qui les préoccupent sur le plan spirituel. C'est aussi un lieu où je vends des livres, mais vraiment à destination du grand public. Je fais des petites vidéos et puis il y a des réunions découvertes. Et par la grâce de Dieu, c'est vraiment un lieu de témoignage où il y a régulièrement des gens qui entendent le message de l'Évangile et qui découvrent. Donc chaque semaine, par exemple, j'ai deux réunions découvertes, une le mercredi et une le jeudi avec des personnes nouvelles. J'ai aussi des gens qui viennent et avec qui je fais un accompagnement individuel. Voilà. Donc si vous voulez prier pour ce lieu, c'est important. Donc on a deux slogans. Donc l'idée, c'est un pasteur dans la ville, au cœur de la ville, et puis le slogan de l'église, c'est une église dans la ville. Et puis on est en train de vivre aussi une étape importante dans la vie de l'église, puisque il y a un an de ça, on apprend que le local dans lequel on se réunit pour nos cultes du dimanche, on ne peut plus y rester. On nous dit que voilà, il faut partir, puisque ce local, on le louait à la mairie, et en fait, il appartenait pas à la mairie. Et puis la mairie décidait d'arrêter donc cette location, et puis on nous a dit qu'il fallait partir. Alors c'était un défi pour nous. On nous a laissé deux fois six mois de délai. Et là, le défi pour nous, bien, c'est d'avoir nos propres locaux. Et on est en train d'acheter des locaux pour l'église. Dieu voulant, on va signer définitivement voilà, pour début juin. Et donc le défi aussi, c'est le financement de ce local. Aujourd'hui, on est à 56% de la somme. On a aussi quelques personnes qui sont prêtes à nous aider avec des prêts. Voilà, donc si vous pouvez prier pour nous, si vous avez à cœur, eh bien voilà. On remercie le Seigneur en tout cas pour cette belle opportunité. Voilà quelques mots de présentation. J'en arrive maintenant au message. Alors, si ça marche. Non, c'est là-haut. Voilà. Alors, vous savez que la semaine dernière, les regards d'une bonne partie de l'humanité étaient tournés vers le Royaume-Uni, avec le couronnement du roi Charles III, un roi qui était loin de faire l'unanimité. Il est moins populaire que la reine Élisabeth, moins populaire que son fils William. Et en septembre 2022, j'ai vu un sondage qui montrait que le Royaume-Uni n'était pas si uni que ça, puisqu'il était réparti en trois tiers. Il y avait un tiers de gens qui étaient sceptiques sur ses qualités à devenir roi, un tiers qui était favorable et un tiers qui demandait à voir. Mais ça n'a pas empêché qu'il soit couronné roi. Et donc le message que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est une question: quel regard portes-tu sur Jésus? Quel regard portes-tu sur Jésus? Alors, je ne me trompe pas en posant cette question ici à Mulhouse, dans une église où il y a de nombreuses personnes qui ont la foi, qui prient, qui aiment le Seigneur, qui le connaissent depuis des années, qui vivent des choses au quotidien, qui rendent témoignage. Je crois que cette question, elle est importante pour chacun d'entre nous. La preuve, c'est que Jésus va la poser à ses disciples. Il va leur demander, tout d'abord, qui suis-je au dire des hommes? Et puis là, on va répondre, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres qui disent que tu es Élie, d'autres qui disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et puis, il va se tourner vers ses disciples et il va leur poser cette question, et pour vous, qui suis-je? Et c'est là que Pierre va faire cette confession de foi qui est importante. Il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui que Dieu a promis, celui que Dieu avait annoncé. Jésus répondra, « Tu es heureux, Simon, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont montré cela, mais c'est mon Père. » Et puis il ajoute que sur la base de cette déclaration de foi, il bâtira l'Église et que toute l'opposition que pourront mettre les forces de l'enfer n'empêcheront pas à Jésus-Christ de bâtir l'Église. Et puis il commence à dire qu'il faut qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Et là, on voit que Pierre, qui a bien compris que Jésus est le Christ, a du mal à accepter la vision de ce Christ qui va souffrir et qui va mourir. Alors il prend Jésus à part et dit « c'est pas possible, à Dieu ne plaît, ça t'arrivera pas ». Et puis Jésus le reprend sévèrement et lui explique que la croix, c'est le chemin nécessaire pour que Dieu puisse bâtir l'Église, mais il ajoute aussi que c'est le chemin nécessaire pour que chacun d'entre nous, nous fassions partie de l'Église. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Que servirait-il à un homme de gagner le monde? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Celui qu'on est prêt à reconnaître comme le Christ, on doit aussi comprendre que c'est celui qui va beaucoup souffrir, offrir sa vie sur la croix, et on doit aussi comprendre que la croix, ce renoncement à certaines choses, certains choix de vie sont importants si on veut faire partie de l'Église que le Seigneur est en train de bâtir. Alors la réponse que je vous propose à cette question, c'est celle qui est issue de la lettre aux Hébreux. Quel regard portons-nous sur Jésus? Nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur à cause des souffrances qu'il a souffertes. Est-ce que ce matin, nous avons envie et nous voulons réaliser que le Jésus en qui nous avons mis toute notre foi et toute notre confiance, il est couronné de gloire et d'honneur? Pourquoi? À cause de la mort qu'il a soufferte. Évidemment, ce verset qui nous invite à porter les regards sur celui qui a souffert pour nous, il fait partie d'un grand tout. On ne va pas le lire, mais je vous invite vraiment à relire le début de la lettre aux Hébreux qui nous dit comment est-ce qu'on peut penser échapper si nous négligeons un si grand salut. Ce salut qui a été d'abord annoncé par des anges, il a été confirmé par Jésus et puis par ceux qui l'ont vu. Ce n'est pas à l'autorité d'anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un d'ailleurs a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et tu lui as donné la domination sur tout ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui est soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. Celui par qui et pour qui sont toutes choses voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Quel regard portons-nous sur Jésus? Jésus est couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert pour nous. En quoi ça va avoir un impact dans ma vie de tous les jours? Parce que c'est ça qui est intéressant. Alors on va lire ensemble maintenant un texte de la première lettre de Pierre, une lettre un peu particulière que j'affectionne beaucoup, puisque Pierre a été chargé d'écrire une lettre d'encouragement à des gens qui vivent leur foi dans un contexte des plus difficiles. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous trouver devant des gens qui vivent des choses difficiles. Souvent, on se dit, qu'est-ce que je peux bien dire? C'est le défi auquel Pierre a été confronté lorsqu'il a écrit sa lettre. Il a écrit une lettre pour encourager des gens dans leur foi, alors qu'il y a la persécution, alors que beaucoup de femmes vivent avec un mari qui n'est pas chrétien, alors que beaucoup travaillent, sont des esclaves avec un patron qui est très difficile, alors qu'ils sont moqués pour leur foi, alors qu'ils sont accusés de toutes sortes de choses qui sont fausses. Et en plus, Pierre sait très bien que les choses ne vont pas s'améliorer. Pourtant, il écrit une lettre extraordinaire dans laquelle il dit « Réjouissez-vous d'une joie glorieuse ». Dans laquelle il nous invite à réaliser que nous avons été libérés pour célébrer la gloire et les œuvres merveilleuses de Dieu. Dans laquelle il nous invite à rayonner de joie, de paix. Il nous invite à recevoir la bénédiction. Il nous invite aussi à être utiles parce qu'on a goûté que le Seigneur est bon et a avancé pour sa gloire. Alors, dans ce contexte, une des clés que Pierre va nous laisser, c'est justement le regard qu'on va porter sur Jésus. Et on va donc lire ensemble, si ça veut marcher, voilà, 1 Pierre au chapitre 3, les versets 17 à 22, et réfléchir ensemble ce matin, de manière aussi très pratique, quel regard je porte sur Jésus. Il vaut mieux souffrir, ça commence bien, hein, en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Par cet Esprit, il avait déjà prêché aux hommes, maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles alors que Dieu faisait preuve de patience. Pendant que Noé construisait le bateau, un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvées à travers l'eau. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumises. Quel regard portons-nous sur Jésus? Si vous regardez les versets qui précèdent, on ne peut pas le faire, mais il nous est dit, une des clés pour faire face à l'épreuve et à la souffrance, c'est de considérer dans nos cœurs le Seigneur. Ben c'est évident. Sauf que le problème qu'on a, c'est que parfois, c'est devenu une habitude de langage et on en oublie ce que ça veut dire, Jésus est Seigneur. S'il est Seigneur, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il a autorité. On reconnaît qu'il a tout dans ses mains. On reconnaît que rien dans ma vie n'arrive sans que Dieu le sache, sans que Dieu le permette, il est Seigneur. J'ai envie de dire, tout est sous contrôle. C'est vrai pour ma vie, mais il n'est pas seulement le Seigneur de ma vie, il est le Seigneur qui règne et qui est celui qui laisse ou pas les choses se faire dans notre monde. La Bible nous montre que Dieu est un grand architecte et le grand horloger, et que tout est sous le contrôle de Dieu. Même un oiseau qui tombe, Dieu le sait. Et il nous rassure en nous disant que nous valons plus qu'une volée de moineaux. Et donc si dans ma vie, je traverse des moments compliqués et difficiles, il est précieux et capital pour moi de me rappeler Jésus-Christ est Seigneur. Tout est sous contrôle. Si je regarde le monde dans lequel je me trouve, les circonstances de ma vie, tout ce qui se passe autour, il est important pour moi de serrer sur mon cœur et de me rappeler, il est Seigneur. Et il m'aime. Il règne et il tient tout entre ses mains. Et donc dans ma manière de prier, je reconnais ça et ça va changer les choses. Je peux vous assurer que si vous serrez ça sur votre cœur, quand vous traversez un moment difficile, quand vous avez peur peut-être au travail ou quand une sœur peut se trouver en face d'un mari inconverti, elle dit « Seigneur, Jésus, tu es Seigneur. Ok, tout est sous contrôle. Je sais et je peux me confier en toi pleinement, même si je ne le vois pas encore. Et je peux m'attendre à toi. » Comment voyons-nous Jésus ? La deuxième vérité importante, il est Seigneur, mais il est couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert pour nous. Je ne sais pas si on mesure à quel point c'est important pour nous de comprendre les souffrances que le Seigneur a endurées. La Bible nous invite à courir notre épreuve de foi en nous déchargeant du fardeau et du péché qui nous enveloppe facilement. Moi, quand je lis ce texte, je me dis « oui, c'est vrai ». Le fardeau, les soucis et le péché m'enveloppent facilement, je dois veiller, les yeux fixés sur Jésus, qui n'a pas eu honte de la croix, de supporter. Pourquoi ? Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et donc, ce qui est important pour moi dans ma vie, pour pouvoir me décharger de mes fardeaux et puis du péché qui m'enveloppe facilement, c'est de courir les yeux sur Jésus qui avait en vue la joie extraordinaire qui lui est réservée. Alors il y a une vérité que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui est évidente hein, pourtant, mais c'est souvent comme ça, hein, et qui m'a beaucoup encouragé. Parfois on a tendance à penser que quand on regarde le récit biblique, on regarde le livre de la Genèse, on voit que Dieu a créé un monde parfait, il a mis l'homme dans ce cadre idéal, et puis tout est formidable, et puis l'homme il vit une belle relation avec Dieu, et puis voilà, patatras. Début du livre de la Genèse, tout est gâché par le péché. Puis qu'ensuite, toute la Bible est là pour nous expliquer comment on va s'en sortir. Et puis on pense que finalement, parfois, l'éternité, le salut, c'est retrouver la condition du jardin d'Éden. Mais je crois que c'est plus que ça. Pourquoi ? Parce que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils vivaient une relation effectivement en harmonie avec Dieu. Ils avaient confiance en Dieu, ils aimaient Dieu, ils parlaient avec Dieu librement, oui. Mais nous, quand nous serons dans l'éternité, tout cela sera vrai, mais en plus, on se rappellera que Jésus-Christ a payé le prix pour nous sauver. On se rappellera qu'on est redevable éternellement pour le sacrifice qu'il a donné. Pourquoi ? Parce qu'il est couronné de gloire et d'honneur à cause des souffrances qu'il a souffertes. Et si vous regardez le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, qui est un livre qui a été écrit pour nous encourager, qui est la révélation de Jésus-Christ, bien, qu'est-ce que vous découvrez dans ce livre ? Bien, vous découvrez qu'on se souvient toujours que Jésus, c'est l'agneau immolé qui a donné sa vie pour qu'on soit sauvés. Apocalypse chapitre 5, on voit Jésus, l'agneau immolé, devant tout lequel tous se prosternent, et devant lequel tous chantent, tu es digne de recevoir le livre, d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu par ton sang, répandu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un peuple de prêtres au service de Dieu, et ils régneront. Et puis là, il y a une chorale angélique qui se met à chanter, il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, et la gloire et la louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et tous les êtres qui peuplent l'univers vont crier à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur, gloire et puissance pour toute l'éternité. C'est-à-dire que dans l'éternité, on n'oubliera jamais qu'on n'est pas digne. On n'oubliera jamais qu'il a payé le prix le plus grand pour nous sauver. Et donc, dans ma vie de tous les jours, dans les épreuves que je peux traverser, dans les peurs que je peux avoir, dans les difficultés auxquelles je suis confronté, il est important que je serre dans mon cœur, il est Seigneur. Mais je me rappelle aussi le prix qu'il a payé. Pourquoi ? Parce que le prix que Jésus a payé, les souffrances qu'il a accepté d'endurer, qui fait qu'il est couronné de gloire et d'honneur, elles sont là pour me dire que si Dieu a fait ça pour moi, ben il ne me laissera pas tomber. Il prendra soin de moi. Elle a du prix, ma vie, à ses yeux. Ma prière a du prix. Il a payé le prix. Comment peut-on savoir que quelqu'un nous aime ? À ce qu'il nous dit ? Oui. À ce qu'il nous donne ? Oui. Mais surtout, aux souffrances et aux sacrifices qu'il est prêt à faire pour nous. Aux souffrances qu'il est prêt à endurer pour nous. Si vous regardez l'histoire de la résurrection de Lazare, vous verrez que la foule ne s'y est pas trompée. Quand Jésus tressaille, quand Jésus se met à pleurer, parce qu'il est bouleversé en voyant ces deux sœurs-là qui sont... Voilà, et puis la foule, la Bible nous dit, la foule dit, voyez comme il l'aimait. C'est quand on a vu Jésus ému, saisi, souffrir pour Lazare, qu'on s'est dit, il l'aime. Qu'est-ce qui nous prouve qu'une personne nous aime ? C'est ce qu'elle est prête à sacrifier et à souffrir pour nous. C'est pour ça que c'est important pour nous de voir Jésus couronné de gloire et d'honneur. À cause de la mort qu'il a soufferte. Il est Seigneur. Et il a tout donné pour moi. Et si je traverse un moment compliqué et difficile, eh bien je peux me rappeler, il est Seigneur. Couronné de gloire et d'honneur. Chose incroyable, il n'a pas honte devant Dieu de dire, voilà, les enfants que tu m'as donnés. Alors, il y a dans ce passage quelques éléments un peu compliqués. Il est considéré comme un des textes les plus difficiles du Nouveau Testament. Mais j'aime cette phrase de Mark Twain, celui qui a écrit Tom Sawyer. Il dit, ce n'est pas ce que je ne comprends pas dans la Bible qui m'inquiète, c'est ce que je comprends. Et donc, il y a pour nous des choses qui sont faciles à comprendre. Jésus, il est au-dessus des... À la droite de Dieu, il siège au-dessus des puissances, des autorités, des dominations. Il a souffert. Et si nous, on est appelés à souffrir parfois, c'est vrai, pour notre foi, on se rappelle, il est Seigneur. Il a tout donné, ça vaut le coup. Et puis, il y a ici le rappel du témoignage de Noé. Et on sait que dans la Bible, l'époque de Noé, comme... L'époque de Lot, avec Sodome et Gomorre, ressemble beaucoup au temps que nous sommes appelés à vivre. Une indifférence par rapport à Dieu, un péché qui s'accroît et toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce qu'a fait Noé ? La Bible nous explique dans la lettre aux Hébreux qu'il a pris au sérieux la révélation qu'il a reçue au sujet d'événements qu'il ne voyait pas encore et qu'il a ainsi condamné le monde, c'est vrai, mais... sauver aussi 8 personnes et que Dieu l'a déclaré juste à cause de sa foi. Il a ainsi pu sauver sa famille. Pourtant, il a enduré la moquerie, l'incompréhension, le jugement, l'abandon et la souffrance. Nous vivons une époque où parfois nos vies ressemblent à celles de Noé. On est incompris pour la foi. Ça n'a plus forcément bonne presse. Parfois, on peut se moquer en disant « Tu veux faire quoi dimanche ?» ou parce qu'on veut eh bien, mener une vie pieuse et honnête. Parfois, il y a des souffrances à cause de notre foi, oui, c'est vrai, même dans nos familles. Mais nous voulons, comme Noé, parce que nous avons reçu cette révélation, rester fidèles au Seigneur et être dans ce contexte-là des instruments pour le salut de ceux qui sont autour de nous. C'est ce que nous sommes appelés à être, des instruments de salut pour ceux qui sont autour de nous. Alors, il y a dans ce texte aussi un rappel que j'ai oublié de mentionner, que je vais faire maintenant. Christ a souffert pour les péchés une fois pour toutes. Lui, innocent, il est mort pour des coupables. Afin de quoi ? De nous conduire à Dieu. Notre privilège aux uns et aux autres, Noé avait le privilège de savoir ce que Dieu voulait faire, mais notre privilège aux uns et aux autres, c'est que nous avons aujourd'hui accès auprès de Dieu. Et ça aussi, c'est quelque chose dont nous devons vraiment réaliser à quel point c'est important. Je ne sais pas comment c'est à Mulhouse, mais à Épinal, par exemple, si vous voulez aller chez le dentiste, aujourd'hui, c'est compliqué. Si vous voulez aller chez l'ophtalmo, c'est compliqué. Si vous voulez aller chez n'importe quel spécialiste, c'est compliqué. Si vous voulez demander à un artisan de faire des travaux chez vous, c'est compliqué. Ça ne les intéresse pas si c'est des petits travaux. Mais la Bible nous dit ici, nous, à toute heure du jour et de la nuit, on peut s'approcher de Dieu. Et en plus, on sait qu'il nous écoute et qu'il nous entend. Pourquoi ? Parce que Jésus, qui est couronné de gloire et d'honneur, nous a introduits dans la présence de Dieu. Et nous nous adressons à un Dieu comme un Père qui nous aime et qui a sacrifié une partie de lui-même, Jésus-Christ, pour qu'on puisse avoir accès à sa présence. Alors Jésus, qu'on voit Seigneur, couronné de gloire et d'honneur à cause de ses souffrances, pour moi, pour nous, qui me permet d'accéder à la présence de Dieu, me révèle aussi l'importance pour moi de me mettre à son service, comme Noé, dans un contexte difficile, pour rendre témoignage. Afin que ceux qui sont autour de moi puissent être aussi sauvés. Et même si on se moque, même si ça prend du temps, eh bien Noé, il y a 8 personnes qui ont été sauvées. Le prix d'une âme. Dernier point pour nous ce matin, ce texte nous invite aussi à réfléchir à notre témoignage et à l'engagement que nous avons pris. Quelque part dans la Bible, il y a du spoil dans tous les sens. Vous savez, on annonce à l'avance ce qui va arriver. Et quelque part, l'histoire de Noé, c'est un spoil pour nous parler du baptême. Un engagement, ce n'est pas le baptême qui sauve, mais c'est un engagement maintenant public. Je veux vivre avec une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. La conscience, c'est quoi ? Ça veut dire avec la connaissance. C'est comme une lumière là, qui éclaire notre cœur et notre vie, qui nous guide dans nos choix. Notre conscience, elle peut être abîmée, mais si elle est éclairée par le Seigneur, tac, la connaissance de Dieu, ça va me guider dans ma vie de tous les jours. Et ce texte ici m'invite, moi aussi, à cause de Jésus qui est Seigneur, à cause de Jésus qui a souffert, qui siège à la droite de Dieu, à cause de l'engagement que j'ai pris, même si je vis dans une époque compliquée qui ressemble à celle de Noé, à vivre avec une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Veillez sur ma vie. Veillez sur mon témoignage. Gardez les yeux fixés sur lui. Je comprends que parfois ma foi va provoquer des incompréhensions, mais je veux tenir ferme les yeux fixés sur Jésus. Parce que j'ai cette connaissance. Je ne suis que de passage, meilleur est devant. Hein. L'Apocalypse, qui est un livre d'encouragement, se termine à la fin avec tout le monde qui crie « Viens, 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 vite, vite, vite !» C'est tellement génial ce qui va arriver. Alors que pour beaucoup aujourd'hui, l'Apocalypse, oulala. Mais ce n'est pas ça hein, le but de l'Apocalypse, c'est de nous encourager. La révélation de celui qui règne. L'Église dit « Viens, Seigneur Jésus ». L'Esprit dit « Viens, Seigneur Jésus ». Et puis nous aussi, on dit « Viens ». Parce que ce n'est pas facile ici. Hein. Mais on veut garder les yeux fixés sur toi. Comment voyons-nous Jésus ? Il est Seigneur, plus qu'un mot. C'est une vérité. Seigneur de ma vie, tout est dans sa main. Tout est sous contrôle. Seigneur du monde dans lequel je suis. Il règne à la droite de Dieu. Il m'a donné l'accès à la présence de Dieu. Et dans l'éternité, je me rappellerai encore tout ce qu'il a souffert pour que je puisse être sauvé. Et dans le contexte compliqué dans lequel je me trouve, je veux garder les yeux fixés sur lui et rendre témoignage. Conclusion, cette question, elle se pose à chacun de nous. Hein. Notre réponse est déterminante dans notre manière d'appréhender les événements quotidiens. Avons-nous compris qu'il est le Christ, mais plus que ça hein. Qu'il bâtit son Église sur la base de la croix et que celui qui veut le suivre doit aussi se charger de sa croix. Et donc la révélation du Christ, elle s'associe à la révélation de ça. L'importance de ses souffrances pour nous témoigne de l'importance de son amour pour nous. Noé a cru, il a témoigné dans un contexte difficile, il a construit une arche par la foi et sauvé 8 personnes. Et nous ? Est-ce que nous croyons ? Et est-ce que nous voulons vivre avec une bonne conscience devant le Seigneur ? Je vais juste terminer par la prière. Merci Seigneur pour ce que tu nous as permis de partager encore ensemble ce matin. Nous voulons prendre quelques instants pour nous arrêter et nous rappeler que Jésus est Seigneur. Pardon pour les fois où ce mot, il manque de concret dans notre vie. On veut se rappeler que tu es Seigneur de tout ce que nous vivons. Tu es Seigneur de tout ce qui nous entoure. Et tu es même Seigneur dans ce monde corrompu. Tu es Seigneur, tout est sous ton contrôle. Ce matin, nous voulons aussi nous rappeler que celui qui est Seigneur, il est couronné de gloire et d'honneur à cause de ce qu'il a souffert pour nous. Il est à la droite de Dieu, au-dessus des puissances, des autorités, des dominations. Tout est dans ses mains, même si on ne le voit pas encore. Tu nous as fait la grâce de pouvoir avoir aujourd'hui la liberté de nous approcher du Père avec confiance, mais aussi avec une bonne conscience. Et nous te prions, Seigneur, de nous aider les uns et les autres à veiller à avoir cette bonne conscience. Tu vois ceux qui nous entourent, Seigneur, nous les remettons entre tes mains pour que dans ta bonté, tu puisses te révéler à leur cœur et à leur vie. Amen.